la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 15 décembre 2025 et Trump a décidé il y a quelques jours, après avoir banni les termes écologie ou wokisme des récits de recherche, augmenter les tarifs de douane, de tout simplement bannir la police Calibri. Alors non pas la vraie police, il n'a pas crié « ACAB » dans la Maison Blanche, c'est Trump quand même, mais il a bien changé la police de caractère du gouvernement, de Calibri à Times New Roman. Alors, police connue pour ses courbes et ses lignes simples. Oui, je suis une craquita de la typographie, vous allez faire quoi ? C'est également la police de base quand on ouvre un document Word. Alors au-delà de ça, c'est une police adaptée pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes. Donc vous doutez que ça ne plaît pas tellement à Trump. En fait, Times New Roman, c'est une police qui n'est pas très accessible en termes de lecture et de lisibilité. Donc ça renvoie une image plus stricte et plus radicale à son lecteur. Contrairement à Calibri, qui est jugé trop accessible et trop associé à la diversité, il a donc décidé de remplacer tous les textes écrits en Calibri par du Times New Roman. Une police plus adaptée pour lui et pour son règne. Le monde se transforme et se radicalise en passant par notre quotidien, les polices d'écriture. Alors, lors de vos prochaines lectures, soyez un peu plus attentifs aux typographies, elles sont peut-être plus politiques que vous ne le pensez. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale. Ce soir dans la matinale, nous allons essayer de changer votre regard sur le monde et d'écrire en police Calibri, peut-être. Au programme, une interview de Emmanuel Goffi, ethnicien de l'IA avec Vladimir. Un zoom sur le festival Dofunk accompagné des organisateurs Manon et Matisse, présenté par moi-même. Des chroniques de Juliette qui nous parlera de l'affaire Bardella Théodora et Clotilde qui nous parlera de salles de consommation à moindre risque. Et un dernier, un flash info de Nancy.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et on commence cette matinale avec toi, Vladimir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir, Emmanuel Goffi. On est ravis de vous accueillir ce soir pour la matinale de Radio Campus Paris, la matinale de 19h. Alors, Emmanuel Goffi, vous êtes chercheur et philosophe spécialisé dans l'éthique. Vous êtes aussi professeur à l'ICEP, qui est une école d'ingénieurs du numérique, on va dire, à Paris. Et vous êtes spécialiste depuis plusieurs années de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'être avec nous et bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir.
Donc du coup, on a une bonne vingtaine de minutes ensemble pour pouvoir décortiquer ce sujet qui est complexe, qui est profond et qui est passionnant. Est-ce que vous pouvez juste simplement commencer par vous présenter votre parcours, ce qui vous a amené à vous intéresser du coup à l'intelligence artificielle, plus spécifiquement à l'éthique ?
Oui, alors on va essayer de faire court. Globalement, aujourd'hui, effectivement, moi, je suis enseignant notamment à l'ISEP, mais pas seulement. J'enseigne aussi à l'école centrale de Casablanca et puis bientôt à Shenzhen en Chine. J'ai cette chance de pouvoir enseigner à plusieurs profils, plusieurs types d'étudiants, les questions d'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Et puis à côté de ça, j'ai aussi une activité de consulting, hein, puisque j'accompagne les entreprises et les pouvoirs publics, essentiellement à l'international, mais aussi un petit peu en Europe, sur la transformation digitale et les questions d'intégration d'éthique dans les processus de digitalisation. Et puis, mon dernier point, la dernière chose que je fais, c'est énormément de conférences à travers le monde. J'ai la chance de pouvoir voyager grâce à ça et donc de faire pas mal de choses. Comment je suis venu à tout ça ? En fait, ça a commencé bêtement. J'ai été militaire pendant 27 ans.
Ouais,
J'ai servi dans l'armée de l'air. Et puis, post-11 septembre, en fait, moi, j'ai repris mes études. Quand on est officier dans l'armée de l'air, on peut faire ce qu'on appelle l'enseignement militaire supérieur des sciences et techniques. Donc, je suis passé par Sciences Po Paris. Et j'ai eu un cours d'éthique par un monsieur qui s'appelle Ariel Kolonomos. Et j'ai trouvé ça super fascinant. Et puis, c'était post-11 septembre. Il y avait des questionnements sur les drones, l'utilisation des drones, et en particulier en France. Et comme j'avais fait de l'éthique, que ça faisait partie des gros sujets qui tournent autour des drones, on m'a collé là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment fascinant.
L'éthique par rapport aux nouvelles technologies militaires.
C'était se poser des questions, vraiment. Il y a tout un tas de questions d'éthique. Je me rappelle les travaux de Grégoire Chamaillou, notamment sur la distanciation, etc. La perte de valeurs militaires comme le courage. Donc il y avait pas mal de questions sur ce sujet-là. Et puis il y avait aussi la volonté des autorités françaises de se distinguer, en tout cas de se distancier de ce que faisaient les Américains, notamment avec l'utilisation des drones par la CIA dans les zones tribales pakistanaises. Et nous, il fallait qu'on fasse accepter aux Français qu'on avait besoin de drones, qu'on allait renouveler notre vieille flotte de drones Arfan. Et donc, à l'époque, je travaillais à la délégation à l'information et la communication de la défense. Et on travaillait sur ce qu'on appelle les éléments de langage. On essayait d'expliquer aux gens qu'on n'était pas comme les Américains, qu'on n'allait pas utiliser des drones armés, etc. etc. Donc ouais. Voilà, je suis rentré là-dedans. Puis petit à petit, évidemment, on s'est posé la question de l'autonomisation des drones. Donc, on ne parlait pas d'IA à l'époque, mais on se posait la question de savoir est-ce qu'on peut déléguer à un système d'armes létales la
possibilité... Une sorte d'intelligence numérique.
Oui, c'est ça. On n'était même pas ça. On était vraiment dans vraiment du technique-technique. C'était vraiment des degrés d'automatisation. C'était les Américains qui nous parlaient de ça. Notamment le MIT, et en fait, on essayait de voir jusqu'à quel degré on pouvait finalement autonomiser le système. C'est-à-dire, il pouvait évidemment décoller, c'était pas un problème, faire du vol, c'est pas un problème, mais est-ce qu'il pouvait, par exemple, à un moment donné, identifier une cible, délivrer de l'armement sans supervision humaine, etc. Donc, c'était le genre de questions. Puis j'ai travaillé avec l'OTAN sur ces sujets-là, et les Nations Unies également, et puis ben, petit à petit, l'IA est arrivée.
Et donc du coup, vous avez commencé à travailler sur ce domaine de l'intelligence artificielle et l'éthique appliquée à ça. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, l'IA, on en entend énormément parler. C'est devenu vraiment un sujet extrêmement important et prenant dans nos vies à la fois individuelles et collectives. Comment est-ce que vous pourriez définir, même si je sais que c'est une question qui est complexe, définir l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne concrètement? Et est-ce qu'on peut réellement parler d'intelligence?
Alors, je vais commencer par la deuxième partie. Non, on ne peut pas parler d'intelligence, en fait. C'est pas du tout ça. En fait, à l'heure actuelle, ce sont des systèmes techniques. En fait, ce sont des lignes de code, ce qu'on appelle des algorithmes. On va en avoir plusieurs. Avec plusieurs algorithmes, on crée un programme qui va, on va dire, mener une tâche particulière. Par exemple, recommander des livres, recommander de la musique, ou éventuellement générer, comme c'est le cas pour ChatGPT, DeepSeek, etc., du texte, ou du code, ou de l'image. Donc, en fait, à la base, ce sont des lignes de code. Donc, on code. Encore une fois, alors, il y a tout un tas de manières de coder. Il y a plusieurs types de langages. Mais c'est vraiment purement mathématique, scientifique, électronique, et puis on met tout ça dans des programmes. Donc c'est pas forcément de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence au sens où on l'entend pour l'être humain, sauf, évidemment, là je vais mettre une nuance, il y aura beaucoup de nuances dans tout ce que je vais dire, c'est qu'en fait on sait pas vraiment ce que c'est que l'intelligence.
Oui, c'est très compliqué, même appliqué au monde animal, on se rend compte qu'il y a des intelligences qui sont très diverses, et que l'homme n'est pas le seul être intelligent sur cette planète.
Tout à fait, donc déjà on peut pas définir l'intelligence, alors même quand je vous dis c'est pas de l'intelligence, de certaine manière on pourrait m'objecter, oui, mais comme on sait pas ce que c'est, ça peut être de l'intelligence. Mais en tout cas, c'est pas nécessairement ce qu'on entend de manière générale sur l'être humain, dans le sens où c'est hyper spécialisé. Une intelligence artificielle qui fait de la recommandation, elle va pas faire du calcul de probabilité sur des marchés financiers, elle va pas vous faire de la génération de texte. Alors peut-être que dans 10, 20, 30, 100 ans, ce sera le cas. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc la capacité, en tout cas l'étendue des intelligences humaines, aujourd'hui, ne sont pas couvertes par l'intelligence artificielle. Donc juste pour rappel, il faut garder ça à l'esprit parce que c'est intéressant, c'est que ce syntagme, intelligence artificielle, a été inventé en 1955 par un monsieur qui s'appelle John McCarthy, et en fait qui essayait simplement de traduire ce que lui pensait être globalement les travaux qu'avait fait Alan Turing sur les machines intelligentes. Oui. Donc en fait on est aujourd'hui, on tourne autour d'un syntagme qui a été créé par un monsieur, il aurait appelé ça des hamburgers intelligents, on se poserait des questions sur les hamburgers, ou il aurait continué d'appeler ça des algorithmes, mais on se poserait pas les mêmes questions. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant.
Donc, tout cas, côté marketing autour de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de créer un récit ou un imaginaire tout autour de l'intelligence artificielle, notamment énormément nourri par la science-fiction dont s'inspire énormément des grands patrons de la tech qui s'inspirent énormément de tout ce qui est science-fiction, etc., pour essayer d'apporter peut-être un flux, un narratif autour de l'intelligence artificielle et une espèce d'image.
Oui, tout à fait. Je pense qu'à la base, c'était vraiment pas l'idée. À la base, pour McCarthy, c'était plus de créer une nouvelle discipline à côté de la cybernétique, à côté de l'informatique, de la robotique, qui traduisait encore une fois les travaux d'Alan Turing. Donc il n'y avait pas vraiment cette volonté, on n'était pas dans cette logique en 1955. Par contre, petit à petit, le fait d'avoir utilisé ce mot « intelligence » a suscité des réactions, a suscité des réflexions. Parce qu'évidemment, quand je dis « intelligence », forcément, je pense à compétition avec l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle. Et donc là, ressens une menace que je n'aurais pas ressentie si on avait dit « algorithme »,
par exemple. Alors que peut-être que l'intelligence humaine fonctionne parfois peut-être un peu par algorithme.
Clairement. Oui, pour certaines personnes, là aussi, il y a tout un sujet de savoir est-ce que des fois, ChatGPT n'est pas plus intelligent que certaines d'entre nous, en termes de capacité à raisonner. Donc effectivement, mais après, le fait qu'il y ait cet intérêt, qu'il y ait cette appétence, ben évidemment, il y a un narratif qui s'est mis autour, et en particulier autour des questions d'éthique.
D'accord. Ben merci pour ce petit point sur l'intelligence artificielle, donc question qui est complexe, mais notamment, puisqu'on commence à parler d'humains, de rapport à l'intelligence artificielle, de rapport au numérique, vous, votre spécialité, c'est vraiment d'avoir étudié l'éthique que vous appliquez à ça. Quelle est votre conception de l'éthique? Parce que c'est un concept philosophique qui est très ancien, qui est très complexe, et notamment, du coup, est-ce que vous pouvez développer votre vision de l'éthique, et notamment votre vision de l'éthique multiculturelle? Parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant dans vos recherches, c'est-à-dire dans cette éthique multiculturelle qui essaie de décentrer le regard occidental est plutôt intéressé à toute forme d'éthique qui sont très plurielles et qui sont très diversifiées dans le monde entier et qui ne sont pas que limitées à ce que Aristote pouvait définir ou ce que le monde occidental a un peu créé. Est-ce que vous pouvez développer votre vision de l'éthique ?
Alors, vous avez raison sur le fait qu'il n'y a pas une définition de l'éthique, il y a plusieurs définitions, que selon qu'on lise Spinoza, qu'on lise Kropotkin, qu'on lise Aristote, on va avoir des visions ou des appréciations un petit peu différentes. Moi, j'aime bien utiliser ce que fait les travaux de Ricoeur, pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait, c'est très opérationnalisable et que Ricoeur fait une distinction entre la morale et l'éthique. Et que si on ne fait pas cette distinction dans le vrai monde, dans le monde réel, si on considère, parce qu'étymologiquement, les deux termes ont le même sens, un venant du latin, l'autre venant du grec, quand on essaye d'appliquer des règles morales, en fait, elles sont très souvent décontextualisées et donc on n'est pas capable de les opérationnaliser. Donc moi, j'aime bien prendre les travaux de Ricoeur en disant il y a l'éthique au singulier qui est d'une certaine manière l'étude de la finalité et de la construction des normes morales. Ensuite, il y a les normes morales qui s'imposent, qui sont extrêmement contraignantes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les éthiques, en l'occurrence, avec un S appliqué, ou les éthiques postérieures, qui sont l'application, dans une situation donnée, des règles morales, leur transposition, mais pas seulement. C'est-à-dire, on va prendre évidemment les règles morales, mais il y aura les règles juridiques, il y aura tout un tas d'autres considérations dans l'équation.
Et donc l'éthique, par exemple, c'est le fait d'appliquer dans une norme juridique une vision morale, qui est par exemple ne pas tuer, et de le décliner dans une norme juridique qui va prendre plein de différentes formes. C'est un peu ça l'éthique.
Alors,
par rapport à la morale.
Je dirais pas forcément que c'est décliné, c'est qu'à un moment donné, on est confronté à une situation où on a un dilemme, donc on a un conflit de valeurs. Donc généralement, soit on se réfère directement à la morale et on applique la morale quand c'est possible, sauf que la plupart du temps, c'est pas possible parce que la morale est décontextualisée. Donc là, on va se retrouver dans un contexte. Donc la morale, on va être obligé de la prendre en compte. Par exemple, le fait, la prescription du meurtre, même si c'est juridiquement quelque chose d'ancré aussi, ça peut ne pas fonctionner dans un cas particulier. Donc je vais dire, très bien, je sais que la morale réprouve ou interdit le meurtre, ça c'est certain, mais dans ma situation, pour me défendre, pour défendre mes intérêts, pour des raisons X ou Y, en fait, dans mon équation, je mets tout un tas d'autres choses en plus. Je vais certainement mettre le droit, je vais certainement mettre une question de survie personnelle, je vais mettre tout un tas de...
Pour l'appliquer au réel, quoi.
Pour l'appliquer au réel, exactement. Et donc c'est ça, les éthiques appliquées, c'est vraiment très bien, je connais les règles morales, mais je ne peux pas simplement les transposer telles quelles dans une situation réelle, ça ne marche pas.
Et ce rapport, du coup, à la morale, on va dire, ou en tout cas à l'éthique occidentale et à l'éthique multiculturelle, comment est-ce que vous articulez les deux? Et quelle est la différence un peu entre l'éthique peut-être occidentale qu'on pourrait appliquer l'intelligence artificielle et l'éthique multiculturelle de plein d'autres éthiques qui s'appliquent partout dans le monde.
En fait, l'articulation, je dirais, c'est assez particulier. C'est que moi, encore une fois, qui ai la chance de voyager, de travailler avec le monde islamique, avec la Chine et d'autres endroits du monde, en fait, il n'y a pas de questionnement éthique à proprement parler. Ça ne fonctionne pas comme ça.
D'accord.
C'est nous qui transposons notre compréhension du monde et notre vision de ce que doit être l'éthique, de ce que doit être l'acceptable, l'inacceptable, donc qui analysons les autres au travers du prisme de l'éthique et qui de fait imposons, donc il y a une forme de tyrannie culturelle, imposons une approche par l'éthique.
Donc une tyrannie culturelle du monde occidental sur le reste du monde qui n'applique pas du tout les mêmes sources de raisonnement et les mêmes capacités de raisonnement.
Exactement. En fait si je fais simple, et pour le coup moi ça me parle parce que encore une fois je suis un ancien militaire, mais quand on va en Chine, on est dans un système confucéen qui est extrêmement hiérarchisé. Donc il n'y a pas de questionnement d'éthique. En fait, une autorité légitime délivre un ordre et puis les gens vont obéir. Il n'y a personne qui va se mettre sur le côté, qui va faire un pas de côté en disant « est-ce que c'est bien éthique ?» Donc que ce soit le président Xi Jinping, que ce soit une autorité morale, que ce soit les parents, que ce soit peu importe, en règle générale, on considère, c'est un a priori, c'est une base de réflexion, que ces gens-là prennent des décisions qui vont dans mon intérêt. Donc je ne questionne pas la moralité, je ne questionne pas la question d'éthique. Quand on va dans certains pays musulmans qui sont très rigoristes, on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que là, on a les paroles du prophète qui nous sont données par le Coran, par les hadiths, par la sunna, par tout ce que vous voulez, et le croyant, il ne va pas faire de l'interprétation, il ne va pas faire de l'éthique. Éventuellement, vous avez des oulémas qui vont faire de l'interprétation dans des cas très très particuliers, qui vont faire de la jurisprudence, mais en fait, pour le croyant, typiquement, la religion, le droit, donc le fir, et puis la morale, tout est aligné, donc il n'y a pas de questionnement éthique. Donc c'est nous qui introduisons ce biais occidental qui est de dire voilà, vous êtes un individu, vous avez le droit de penser, de faire un pas de côté et de regarder tout ça en vous disant est-ce que c'est bien acceptable.
D'accord, ouais, mais c'est vraiment une approche qui est très intéressante et notamment qui explique les incompréhensions globales entre le monde occidental et aussi les autres manières de fonctionner dans le monde.
Oui, clairement. Et puis après, il y a tout un tas d'autres perspectives aussi, parce qu'il n'y a pas que ce monde-là, mais aussi toutes les perspectives animistes qu'on va trouver en Australie, qu'on va trouver en Amérique du Nord et dans d'autres pays.
Très bien, merci beaucoup, c'est passionnant.
Eh bien, on va faire une petite pause musicale en écoutant When Vanish de King Crow. On se retrouve juste après. Il est 19h18, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et après cette petite pause musicale, on va reprendre l'interview avec Vladimir, je t'en prie.
Oui, merci beaucoup. On est toujours avec Emmanuel Goffi, du coup, chercheur et philosophe spécialisé dans l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Alors, en première partie d'interview, on a redéfini un peu votre parcours, votre définition de l'intelligence artificielle, votre conception un peu de l'éthique avec ce décentrement sur l'éthique multiculturelle, en essayant de sortir un peu de cette vision occidentale. On va s'intéresser un peu au dur du sujet sur l'éthique, du coup, qu'on va pouvoir appliquer à l'intelligence artificielle. Alors, avec plein de questions, notamment du coup sur ces enjeux-là qui touchent l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est un outil, mais c'est un outil qui se présente comme neutre, mais qui n'est pas forcément toujours neutre, parce que tout dépend de comment on le programme. Vous l'avez dit, c'est un algorithme, ce sont des différentes manières de s'intéresser à différents projets. Je vais prendre par exemple l'exemple de Grok, qui est l'intelligence artificielle qui a été programmée par Elon Musk et qu'il essaye absolument de tordre dans tous les sens pour que du coup les informations qu'elle dévoile quand on lui pose une question, quand on lance un prompt, vont parfois dans le négationnisme historique ou dans des choses qui sont très complexes. Du coup, je me demande, comment est-ce que vous pourrez peut-être introduire sur votre vision de comment est-ce qu'on peut appliquer une certaine éthique à l'intelligence artificielle, par exemple dans ces cadres-là de prompt ou de recherche un peu sur Internet ou des choses comme ça.
Alors c'est une question complexe évidemment. En fait, moi, je me dirais pas nécessairement qu'il faut appliquer l'éthique, parce que à partir du moment où on applique une éthique à un système, c'est-à-dire quand on va le programmer avec une certaine vision, on va le biaiser. Donc la question, c'est de savoir est-ce que mes biais sont meilleurs que les biais des autres. Donc ça dépend dans les choses sur de qui on se place. Ben forcément, on peut avoir des réponses assez variables. Moi, ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est qu'on cherche à tout prix à faire avec l'intelligence artificielle ce qu'on n'est pas capable de faire avec l'être humain. C'est-à-dire quand moi je pose une question à quelqu'un, quand je prompte quelqu'un, un être humain, je m'attends pas à ce que cette personne me donne une réponse 100% fiable. Je vais récupérer sa réponse. Alors, en fonction du niveau d'expertise que j'évalue de manière assez subjectivement, je vais dire, OK, c'est plus ou moins fiable, mais je vais aller chercher ailleurs. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on s'attend à ce que l'intelligence artificielle nous fournisse de l'information. L'intelligence artificielle, les systèmes d'IA, et en particulier d'IA générative, ne fournissent pas de l'information.
Ils vont aller piocher dans toutes les informations qui existent.
Non, ce que je veux dire, c'est que ce que vous recevez, c'est comme quand vous écoutez en ce moment la radio ce que je suis en train de dire. Moi, je ne fournis pas de l'information. Si vous prenez ce que je dis comme de l'information, vous n'allez pas avoir d'esprit critique, vous n'allez pas avoir de recul, vous allez prendre comme étant quelque chose de vrai, ok, c'est une information, et vous allez le répercuter. D'accord, vous allez être un ventilateur, de l'air chaud rentre d'un côté, le même air chaud rentre de l'autre côté. Vous avez servi à rien. Vous avez simplement répercuté une information. Par contre, si vous considérez que ce que je vous dis, c'est de la donnée, et que ce que vous obtenez dans un système d'intelligence artificielle, c'est de la donnée, ce que vous lisez dans un livre, c'est de la donnée, à ce moment-là, c'est à vous de créer l'information. C'est-à-dire, dans l'ensemble des données que vous avez dans votre tête, comme un système d'IA, à un moment donné, il va falloir répondre à une problématique, trouver une solution, vous allez mobiliser l'ensemble de ces données, faire des inférences, et là, et seulement là, vous créez de l'information. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des sources de données auxquelles moi je vais me référer, je ne m'attends pas à ce que ce soit du 100% juste. Je ne m'attends pas à ce que, quand je discute avec vous, vous ne soyez pas biaisé, je ne m'y attends pas à ça. Je veux dire, je ne m'attends pas à ce que, quand je dis un journal, quel qu'il soit, qu'il ne soit pas biaisé. Je ne m'attends pas, à, quand je regarde la télé, à ce que ce soit pas biaisé.
Il n'existe pas de journalisme neutre comme il n'existe pas de.
Parce qu'il n'y a pas d'être humain neutre. Donc en fait, je trouve ça assez paradoxal qu'on essaye d'avoir un système qui serait neutre, alors que nous, nous ne le sommes pas. Parce qu'en fait, et moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit, c'est, on m'a toujours dit, ben, diversifie tes sources d'informations.
Et fais-toi ta propre conviction. Critique.
Exactement. Donc, si vous ne vous référez, tout à l'heure, en off, on parlait de Wikipédia, si vous ne vous référez que à Wikipédia, ben, vous aurez la vision de Wikipédia. Si vous ne vous référez qu'à Grok, ou à DeepSeek, ou à ChatGPT, vous aurez des résultats qui correspondent à ça. Par contre, si vous êtes capable d'aller regarder sur Wikipédia, Grok, DeepSeek, le journal X ou Y, la radio X ou Y, à ce moment-là, vous allez commencer vous-même à avoir une base de données qui vous permet de faire des inférences qui sont plus précises au moment où vous avez besoin d'une information.
Donc l'éthique, si je comprends bien, appliquée à l'intelligence artificielle, ça doit être vraiment de développer une discipline individuelle de la part de tous les individus pour réussir à développer leur esprit critique.
Oui, tout à fait.
Et donc ça, c'est dans le cas où, par exemple, on lance un prompt à ChatGPT et qu'à chaque fois qu'il va nous répondre quelque chose, il faut toujours qu'on ait ce regard critique pour aller multiplier les sources, chercher les choses et essayer de développer son esprit critique.
Exact. Mais comme on le ferait avec un prof, un prof qui déclame ex cathedra, on ne prend pas ce qu'il raconte pour acquis, aussi expert soit-il. Et à un moment donné, voilà, il y a toujours un biais qui correspond à l'âge, à la culture, à l'éducation, à tout un tas de choses. Et donc, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants la plupart du temps. Tout ce que je vous dis, je ne détiens pas de vérité, et c'est tant mieux. Et tout ce que je vous dis, vous devez le passer à la moulinette, à votre propre moulinette, pour en faire, vous, de l'information.
Donc, cette éthique-là se pose fondamentalement dans un contexte extrêmement préoccupant aujourd'hui, où les gens utilisent le mot de post-vérité pour expliquer que maintenant, on va tendance à mettre les opinions individuelles sur le même niveau que de faits établis. Et ce qui a été toute une stratégie, notamment de l'extrême droite américaine, même de tout le monde. En fait, tout le monde est rentré un peu dans cette idée-là. Et donc, du coup, ce que vous défendez, vous, comme éthique, c'est vraiment le fait de remettre l'esprit critique sur des bases peut-être un peu plus saines, c'est-à-dire sur des bases de faits, et qu'à partir de là, on se crée une opinion, ou en tout cas, on se crée une vision de l'information, comme vous le dites, à partir de données.
Exactement. C'est vraiment, moi, je trouve qu'il faut recentrer la question éthique, parce que c'est un peu facile de toujours dire c'est la faute des autres. Hein. C'est les méchants GAFAM, c'est l'extrême droite, c'est Grok, c'est machin, c'est bidule. En fait, c'est nous qui sommes responsables de gober tout ce qu'on nous vend. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le conformisme et que vous gobez, bon, il faut accepter que, en fonction des gens avec qui vous allez discuter, en fonction de vos interlocuteurs, vous n'allez pas forcément gober des choses qui sont fascinantes. Donc, après, encore une fois, notre responsabilité à nous, c'est d'avoir cet esprit critique et donc de regarder ça avec du recul. Après, sur les faits, il y a les faits, puis il y a l'interprétation des faits. Donc, il y a tout un tas de sujets là-dessus. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les pensées, en l'occurrence quand on fait le pas de côté multiculturel chez Al-Razali, dans les pensées perses, sur le doute qu'on va retrouver après chez Descartes, qui est invité au doute. Exactement, le doute méthodique, alors pas hyperbolique parce qu'on devient fou, mais le doute méthodique, c'est quand même quelque chose de très très important. Je veux dire, même mes sens, je ne peux pas leur faire confiance. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me faire confiance à moi-même. Dans ma manière d'interpréter le monde, j'ai des biais. Dans la manière dont je regarde le monde, je projette des biais. Donc voilà, à mon avis, c'est ce vers quoi il faut tendre si vraiment on veut faire de l'éthique, en l'occurrence.
Mais il y a un terme passionnant, et vous avez, ça me donne une transition toute trouvée sur Descartes notamment sur le rapport de l'homme, et en tout cas de la vision occidentale de l'homme par rapport à la nature. On sait que depuis Aristote, et même qui a été un peu confirmé par Descartes avec son animal-machine, etc., la vision que l'homme devrait avoir sur la nature, c'est une vision de forme de domination ou d'exploitation, de travail là-dessus. L'intelligence artificielle, de la part de plein de personnes qui s'inquiètent justement du développement de cette intelligence artificielle, elle est fondamentalement liée peut-être certains vont y voir une fuite en avant d'une forme de technologie de plus en plus galopante, à un moment où justement les problèmes liés au dérèglement climatique, à la destruction du vivant se posent de plus en plus fort. Est-ce que du coup il y a une éthique et de plus en plus de chercheurs s'intéressent justement à la moralité vis-à-vis du vivant, au respect du vivant, etc. Est-ce que vous faites du lien entre l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle et la consommation et l'impact de l'intelligence artificielle sur le vivant, sur la nature et sur cette espèce de technosolutionnisme qu'on nous sort souvent?
Oui, de toute manière, il y a des questions du poids. Encore une fois, on en revient d'une certaine manière toujours à la même chose, c'est notre perméabilité à ces systèmes d'intelligence artificielle, notre incapacité à prendre du recul, notre incapacité à réfléchir par nous-mêmes, et comme ce sont des outils de communication qui sont extrêmement massifs, qui touchent, alors pas tout le monde, c'est pas vrai, mais de manière quand même assez large et très rapidement, bah évidemment l'impact est plus important qu'un journal ou qu'un livre. Donc ça veut dire qu'on a énormément de gens qui sont directement concernés par ça. Et donc effectivement, il y a énormément de gens à qui on dit, parce qu'il y a un narratif qui a été créé, à qui on dit, ne vous inquiétez pas, c'est ce que fait l'Union européenne, ne vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle, elle est de confiance, c'est l'IA de confiance. Et en fait, toute l'idée de l'IA de confiance depuis les origines de l'Union européenne, en tout cas des réflexions de l'Union européenne, c'est de dire aux gens, on sait que vous avez une aversion, on sait que vous avez des inquiétudes, rassurez-vous, tout est sous contrôle. Et on revient à cette fameuse logique de l'être humain qui contrôle son environnement. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout en contrôle.
Oui,
mais la logique, c'est pas tant une logique éthique au sens où on l'entend de manière générale sur la question des valeurs, c'est une logique purement commerciale. C'est-à-dire on veut que les gens consomment de l'intelligence artificielle. Donc tout le narratif qui existe autour de ce qu'on appelle l'IA responsable, l'IA de confiance, etc., c'est un narratif qui est là pour rassurer le consommateur et faire en sorte que ce marché de consommateurs européens consomme de l'IA en abaissant un petit peu son seuil de vigilance vis-à-vis de ces outils.
Oui, donc du coup, c'est un problème fondamental parce que du coup, on va essayer de gommer les aspects un peu négatifs sur l'environnement que peut avoir l'IA en essayant de dire tout est sous contrôle, on est sous contrôle, alors qu'en réalité, il y a un immense enjeu par rapport à ça.
Il y a un immense enjeu, mais là, sur la question environnementale, il y a aussi, je pense, et là, ça fait partie aussi des sujets qui sont super sensibles, qui basculent très rapidement dans de la polarisation et de l'idéologie.
On en parlait entre les technophobes et les technophiles, il y a forcément
c'est-à-dire
ce spectre.
Aujourd'hui, voilà, moi, il y a plein de gens qui disent l'IA a un impact phénoménal. En fait, factuellement, on ne peut pas le mesurer, l'impact. Hein. C'est pas vrai. On peut savoir globalement, si vous envoyez un courriel, ce que ça consomme comme eau, j'en sais rien. Mais en fait, c'est déjà d'une part, on n'a pas tous les mêmes métriques. Ensuite, on n'a pas accès à l'ensemble des données. Ensuite, si on veut faire le travail correctement, il faudrait comparer l'impact de l'IA par rapport à l'impact, par exemple, de l'agriculture. Et on s'apercevrait que l'agriculture, c'est beaucoup plus problématique que l'IA. Et ensuite, il faudrait voir aussi quels sont les avantages de l'IA comparés à ses inconvénients en termes d'impact environnemental pour voir si oui ou non il faut le faire. Sauf que ça n'est pas possible. C'est factuellement impossible. Donc, vous avez tout un tas de gens, c'est comme l'impact de l'IA sur le travail, vous avez tout un tas de gens qui sortent des rapports, mais qui sont hyper sectoriels, qui sont vraiment sur des échantillons extrêmement limités. Donc, de fait, tout ce débat, il est très idéologisé. En fait, il manque de fond. On manque de fond.
Ouais, c'est une très bonne, une remarque très très intéressante sur cette notion-là. Et du coup, j'en profite pour passer sur un enjeu aussi qui touche aux évolutions technologiques qui bouleversent systématiquement le monde du travail, enfin, surtout depuis la révolution industrielle, avec l'arrivée de la mécanisation, avec l'arrivée de l'automatisation dans les usines, où ça a toujours bouleversé le monde du travail. Vous conseillez les entreprises par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle a cette particularité peut-être de s'attaquer plus au monde du tertiaire plutôt qu'au monde purement industriel, c'est-à-dire que maintenant des services qui avant pouvaient être fournis, des gens qui appellent, qui passent des coups de fil pour faire du télémarketing, des choses comme ça. Maintenant, tout est, on va dire, entre guillemets, menacé par l'IA. Vous, quand vous faites du conseil aux entreprises, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur l'éthique liée au monde de l'emploi, au monde du travail, en tout cas, par rapport à cette arrivée de l'intelligence artificielle sans
je vois une certaine forme d'hypocrisie, surtout, c'est-à-dire que globalement, tout le monde l'utilise, mais tout le monde critique. Donc, il y a un côté un peu schizophrène, hein. Il faut utiliser l'IA. Alors, déjà, il faut être clair. C'est-à-dire qu'il y a une forte pression sur un certain nombre d'employés, de travailleurs, de la part de leurs patrons pour être de plus en plus productifs. Et donc, par exemple, les étudiants connaissent ça aussi. Quand vous donnez 50 milliards de travaux aux étudiants dans une semaine, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, ils trouvent des moyens pour skipper et puis aller plus vite. Et c'est normal, c'est légitime. Donc, si vous relâchez la pression, vous avez le droit à un moment donné de leur dire écoutez, prenez plus de temps pour aller à la librairie ou à la bibliothèque, lisez des bouquins, etc. Maintenant, si vous les foutez sous pression en continu, à un moment donné, forcément, ils vont aller chercher des raccourcis. On fait tous ça. Donc, dans le monde du travail, c'est exactement la même chose. Donc, on vous pousse à être de plus en plus productif. On vous fournit des outils. Hein. On vous met du copilot, on vous met de l'IA générative. On vous dit, regardez, c'est génial, il faut y aller, vous inquiétez pas, ça va pas vous prendre votre job. Et puis, à un moment donné, on vous tape sur les dents en vous disant, mais oui, mais bon, t'es remplaçable, maintenant tu dégages. Donc, il y a un côté un peu schizophrène entre les gens qui poussent à la roue, le gouvernement français en fait partie, et je le déplore très profondément, pousser à la roue en disant il faut adopter massivement l'intelligence artificielle, il faut former dès le plus jeune âge l'intelligence artificielle, et puis des gens qui s'inquiètent en disant mais oui, vous êtes remplacé, mais sur le remplacement, je reviens à mon postulat de base, c'est que vous n'êtes remplaçable que si vous acceptez d'être remplaçable. C'est-à-dire globalement, si vous pensez comme tout le monde et que vous n'êtes qu'un ventilateur qui fait rentrer de l'air et fait ressortir le même air plus rapidement de l'autre côté, oui, à un moment donné, on va dire je vous remplace par un ventilateur, parce que
d'accord,
tu ne sers à rien.
D'accord. Et donc du coup, il y a peut-être justement sur cette notion de l'individuel par rapport au collectif et justement sur ce que nous, on peut faire. Est-ce que vous pensez rapidement, dans cette dernière question, est-ce qu'il y a un enjeu démocratique fondamental qui contrôle l'éthique de l'IA et est-ce qu'il y a un engagement citoyen et démocratique pour aider à réguler, comprendre, apprendre sur l'intelligence artificielle et essayer de s'approprier justement tous ces débats?
Il y a un enjeu démocratique en termes d'impact, c'est-à-dire de quantité de gens qui sont impactés par ces systèmes et puis de qualité, parce qu'effectivement, ces gens qui sont impactés par des choses qui sont pas forcément vrai. Donc, à mon sens, ça c'est vraiment le gros sujet sur lequel on doit se pencher aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle. Maintenant, au-delà de ça, je vous dirais globalement, l'IA, c'est juste un multiplicateur de force et les problématiques qu'on trouve dans la démocratie, elles existaient déjà avant l'intelligence artificielle au travers d'autres moyens.
D'accord. Merci infiniment Emmanuel Goffi d'avoir été avec nous. On reste vigilants parce que vous êtes en train d'écrire un livre, un manuel d'éthique, vous nous en avez parlé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheur et philosophe spécialisé dans l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle.
Merci à vous deux. Et c'est l'heure du Zoom. Du Flash Info, excusez-moi, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
C'est à toi, Nancy.
Bonjour, voici les principales informations de la journée. Aujourd'hui marque la troisième journée de mobilisation des agriculteurs en France contre l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire bovine. La Confédération paysanne a appelé à des, je cite, « blocages partout ». La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, affirme que, je cite, « la discussion est ouverte à une éventuelle suspension de la procédure jusqu'ici mise en place, critiquée par les agriculteurs pour gérer la maladie bovine ». Les portes du Louvre sont restées fermées aujourd'hui en raison d'une grève reconductible contre des conditions de travail dégradées et la détérioration de l'accueil du public. Elle a été votée à l'unanimité par ses personnels ce lundi matin lors d'une assemblée générale à 9h. Des problèmes de sous-effectifs sont dénoncés par la CGT, syndicat majoritaire du Louvre. De son côté, la direction du Louvre recense les agents non grévistes pour une éventuelle réouverture du musée. À l'international, l'Australie est en deuil depuis hier. Un père et son fils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises en fin de journée sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi à Sydney. À l'heure actuelle, 16 personnes sont décédées, âgées de 10 à 87 ans. Dans ce drame, un héros sans cap se distingue, Ahmed Al-Ahmed, 43 ans, ayant désarmé l'un des assaillants. Son geste a été salué par le monde entier. Au Chili, ce dimanche 14 décembre, le candidat d'extrême droite José Antonio Kast remporte les élections avec 58% du suffrage et devient président 35 ans après la fin de la dictature d'Augusto Pinochet. Près de 16 millions d'électeurs ont été appelés à voter pour départager les deux candidats, dont l'opposante n'était autre que Janet Jara du Parti communiste chilien. Le Chili a gagné, l'espoir de vivre sans peur a gagné, a déclaré le vainqueur du scrutin lors de son discours de célébration. Et enfin, pour terminer ce flash info, parlons sport. Ce dimanche, le petit frère de Victor Wembanyama, Oscar, 18 ans, a disputé son premier match chez les professionnels avec la SIG Strasbourg en Bet League Elite contre la S Monaco. Entré en seconde période, il a inscrit son premier point professionnel et participé activement au jeu. Ce premier contact avec le monde pro marque une étape importante dans sa jeune carrière et le lancement de son apprentissage à haut niveau.
Merci Nancy, on va faire une petite pause musicale avec La La Land de Asinin et on se retrouve juste après.
Le café est froid. Ma grand-mère m'a envoyé ce poème sur Facebook, genre 6 fois. J'sais pas vraiment si c'est pour elle ou pour moi qu'elle dit ça. Parfois j'aimerais croire en Dieu et contester la science. Pas croire que c'est de la chance. Croire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute quand j'parle aux constellations. T'étais pas là quand c'était la loose, t'es là pour la consécration. J'ose pas parler à part dans le vide, j'ai pas de réponse que de la latence. Mais c'est comme ça la vie, j'sais que c'est pas là la lande. J'pense à la maison, mon drap qui sentait à la vente. À la fois où t'as dit non, de pas sûr que c'est réparable. Au premier, t'as foutu tous ma rock cigarette à la menthe.
Vous êtes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
et c'est l'heure de la chronique de Juliette. Cette musique de Théodora et DC's, vous l'avez sûrement entendue partout depuis la rentrée, notamment sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on l'a aussi retrouvée dans une vidéo TikTok de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Juliette, tu nous racontes ?
Oui, parce que cette utilisation-là, clairement, elle ne passe pas. Pour vous remettre un peu dans le contexte, le 29 novembre dernier, Bardella partage sur TikTok une vidéo de ses déplacements rythmée par la chanson « Mélodrama » dont on vient d'écouter un extrait. La vidéo cumule déjà plus de 5 millions de vues. Sauf que très vite, Théodora a réagi. Dans un message publié sur son compte Instagram vendredi, elle interpelle toutes les personnalités qui utilisent sa musique ou son image pour promouvoir une politique d'extrême droite. Je la cite, elle ajoute « Je ne peux pas comprendre que vous, qui ne me considérerez jamais comme pleinement française, tiriez profit de mon travail pour défendre des positions que je combats. » La chanteuse interroge alors « Pourquoi associer vos idées à une œuvre créée par une immigrée congolaise ?» Parce que oui, Théodora, sa musique, sa vie, son enfance, c'est pile ce que le RN n'aime pas. Et dans le magazine américain The Fader, elle résumait crûment son expérience. Quand on est une fille noire et qu'on fait de la musique en France, il faut se battre 5 fois plus.
Mais ce genre de polémique, on l'a déjà vu ailleurs.
Oui, clairement. Aux États-Unis, rappelez-vous, Donald Trump avait déjà déclenché la colère de Beyoncé, Céline Dion, Neil Young ou encore des Rolling Stones et j'en passe en utilisant leurs chansons lors de ses meetings, sans autorisation et sans leur soutien.
Mais du coup, en France, juridiquement, est-ce que les politiques ont le droit de faire ça ?
De ce qu'on comprend, oui, mais la réponse est un peu plus floue, sinon c'est pas marrant. Sur TikTok, l'utilisation d'une musique est souvent couverte par des accords de diffusion. Donc techniquement, c'est légal. Mais en même temps, en France, les artistes disposent aussi d'un droit moral censé protéger le lien entre un créateur et son œuvre. Après, dans les faits, ce droit se heurte aujourd'hui aux plateformes et aux stratégies de communication politique. Résultat, ce qui est légal n'est pas toujours légitime. Autrement dit, un responsable politique peut parfois utiliser un son sans enfreindre le droit d'auteur, mais il ne peut pas empêcher l'artiste de s'y opposer publiquement et de dénoncer une récupération. Donc au fond, la question, c'est peut-être pas seulement est-ce que c'est légal, mais plutôt est-ce que c'est sain, démocratiquement, de récupérer une œuvre contre la volonté de celle ou de celui qui l'a créée. Et une chose est sûre, la musique est devenue un terrain politique comme un autre, et ce terrain-là, croyez-moi, il promet d'être bruyant avec les élections à venir.
Merci beaucoup Juliette. Et maintenant, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors pour le Zoom de ce soir, on reçoit Manon Vazina Viala et Mathis Guigal pour le festival DoFunk qui aura lieu du coup le 31 janvier 2026 et le 1er février 2026. C'est ça ?
Juste le 31.
Juste le 31 ? C'est juste que ça se finit très tard peut-être.
Oui, c'est ça, c'est de 19h à 3h.
Ok. Déjà, alors le festival est dans un mois donc... Vous avez encore un peu le temps et tout ça, mais comment vous sentez là maintenant, dans la préparation, dans l'organisation, comment ça se passe dans l'assaut ?
Voilà, tout se passe plutôt bien. On a au sein de l'assaut, on a plusieurs pôles, donc on a le pôle programmation qui a déjà préparé toute la programmation, donc on attend juste de l'annoncer avec donc les concerts et les DJ. On a la communication qui se passe super bien. On a sorti les premiers groupes qui vont venir jouer. Niveau partenariat aussi, ça se passe bien.
Tout est beau, voilà. Le soleil brille en fait.
C'est ça, on a sorti la billetterie hier. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe très bien.
C'est une bonne chose. Le festival, le DoFunk, donc il fait partie de l'association... merde, j'ai perdu mes notes. D'une association
L'Oreille,
qui, l'oreille de Dauphine, c'est ça ?
C'est ça.
Qui fait partie du coup de l'Université Paris-Dauphine. Le festival, le Dauphine, ça fait 17 ans que ça existe. Comment est-ce que c'est né et comment est-ce que ça fait que ça existe encore ?
Le festival, il est né...
Vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro.
Le festival, il est né tout d'abord d'une initiative étudiante de vouloir rendre la culture et notamment la musique accessible au plus grand nombre et à des prix abordables, donc pour les étudiants à la base. Et l'association L'Oreille de Dauphine, en fait, elle est très ancrée dans la musique, on va dire, acoustique et instrumentale. Donc le funk, c'est un style de musique qui promeut pas mal ces valeurs-là. Et donc ça fait 17 ans qu'il existe maintenant au sein de notre université. Cette année, c'est un peu spécial parce qu'il est... déplacer en dehors de l'enceinte de l'université au point éphémère à Paris. Et donc c'est un peu un renouveau pour le festival cette année, mais qui promeut toujours les mêmes valeurs de accessibilité à la musique à un prix abordable pour les étudiants.
Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça existe encore? J'imagine qu'en plus, si c'est une association étudiante, les personnes font leurs études, ils ne restent pas à Dauphine toute leur vie. Donc qu'est-ce qui fait que aussi ça a réussi à se renouveler d'année en année?
Y a le fait que, en gros, chaque année, on a un nouveau bureau qui est élu. Et donc les nouveaux pôles qui sont élus, enfin qui sont nommés aussi. Et donc on continue à perpétuer la tradition et le Dauphunk parce que en soi, enfin le Dauphunk et nos autres festivals parce que ça fonctionne, que on voit que les étudiants dauphinois aiment ça et pas que d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'externes qui viennent aussi. Et voilà.
Et on est beaucoup soutenu par les anciennes générations de l'association, ceux qui ont monté les festivals à la base et qui ont continué à le perpétrer. Ils sont très présents pour nous dans l'organisation. Donc souvent, c'est très utile pour pouvoir perpétrer la tradition, au fil des années.
De ce que j'ai compris, en ayant fait sur les réseaux sociaux et puis en ayant regardé votre site, chaque année, du coup, le festival reverse ses bénéfices à une association en particulier. Cette année, ce sera l'Enfant Bleu. Pourquoi cette association en particulier et comment est-ce que aussi... parce que vous auriez pu, par exemple, faire juste un festival pour les étudiants et voilà. Mais comment est-ce que vous vous êtes dit, on n'a pas juste envie de faire un festival, mais aussi de faire un cercle vertueux pour les associations?
Déjà, pour le choix de l'Enfant Bleu, c'est un espèce de vote qu'on effectue au début de l'année. Il y a plein de gens de l'asso qui proposent les associations qu'elles souhaitent parrainer. Et ensuite, on l'a choisi entre nous. Et ensuite, le côté caritatif a toujours été là, en fait, dans l'asso. L'année dernière, on a parrainé, par exemple, France Terre d'Asile, l'année d'avant, Utopia 56. Enfin, on veut porter ces valeurs et même les gens au sein de l'association, en dehors des festivals, peuvent participer à des actions, faire du bénévolat. Ouais. Même il y a d'autres assos à Dauphine qui organisent par exemple des maraudes ou quoi auxquelles on participe.
Et du coup, pourquoi cette association en particulier cette année? Est-ce que ça avait un sens particulier ou c'est dans le choix? Est-ce que ça a été très très difficile, je sais pas, de se mettre d'accord, etc. Pourquoi cette association en particulier dans le choix, dans les bénévoles, dans les discussions qui ont pu se faire?
Le choix de l'association, comme Manon l'a dit, c'est un choix qui se passe avec un vote. Tout le monde propose une association et après on fait des descriptions, tout le monde se renseigne sur les associations et les gens choisissent un peu de leur, en fonction de leur propre avis. Après, je sais que pour l'Enfant Bleu, ce qui est bien dans le choix de cette association, c'est qu'ils ont aussi besoin de beaucoup de bénévoles et le fait qu'on les parraine, ils sont présents à l'événement et ils peuvent faire de la sensibilisation, ce qui permet aussi pour eux d'avoir une sorte
de présence
dans l'événement, de la couverture médiatique et de pouvoir peut-être trouver des bénévoles à ce moment-là. Donc pour nous, ça nous paraissait bien en lien avec notre événement et notre projet. Donc je pense que c'est comme ça que les gens ont pris cette décision.
Et est-ce que c'est aussi un enjeu peut-être de rendre les festivals, les lieux de fête plus inclusifs, plus accessibles aussi, notamment pour les étudiants? Il y a de plus en plus d'associations qui mettent ça en place et de festivals qui font en sorte qu'il y ait des maraudes de, je sais pas, de personnes safe, c'est bizarre de dire ça, mais est-ce que c'est aussi une intention que vous avez?
Oui, en soi, on a toujours eu des raisons... Il y a un référent VSS au sein de l'asso. Okay. Et même pendant les festivals, il y a des référents VSS. On a vraiment plusieurs personnes responsables de ça. Et oui, ça a toujours été très important pour nous.
On a toujours promu le fait que les festivals devaient être inclusifs et bienveillants. C'est une des valeurs principales. Ça fait partie des valeurs principales du festival, donc ça, on essaie de le perpétuer au maximum. Tout le monde est formé au sein de l'association sur ces sujets-là. Et le soir même du festival, on est tous responsables. Donc, Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, ça fait partie des valeurs.
C'est un festival safe. Vous avez déjà reçu au sein du festival l'Impératrice, Polyphone et plein d'autres. C'est quoi la programmation pour la retrouver et surtout, comment est-ce que vous faites la programmation d'ailleurs? Comment est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est aussi facile que de choisir une association ou est-ce que c'est encore plus difficile et vous arrachez les cheveux?
Alors, bon, cette année, ce n'est pas nous à la programmation, mais l'année dernière, on y était tous les deux. Donc, on était respo programmation. Et,
et ils sont encore là, donc franchement ça va.
et donc cette année, la programmation du festival, bon, on a sorti deux groupes. Mmh. Donc ce sera Culte chez La Bomme et un prochain Ave Mana qui du coup va sortir bientôt. Et pour la programmation, c'est de la prospection. On recherche les groupes sur Instagram, sur Deezer, ou sur les programmations de festivals, même ou quoi.
J'imagine que c'est aussi en fonction de ce que vous vous écoutez, de ce qui ressort de vos écoutes, de vos réflexions.
En fait, les responsables programmation, ils sont très libres au final. Ils font des concerts, ils font des festivals, ils écoutent de la musique. Et en fonction de tout ça, en fait, ils vont... choisir eux-mêmes leur programmation. Nous, on a un regard sur la programmation en tant que bureau, mais en soi, eux sont assez libres de choisir la direction artistique. Mmh. Et après, oui, c'est vraiment fouiner un peu partout, trouver des choses qu'on aime, et ensuite, c'est du démarchage classique, par mail, par appel, ce genre de choses. Mais c'est très très fun à faire.
Et surtout le jour même du festival, quand on rencontre les groupes.
Oui, ça doit être.
C'est trop bien.
Ah, oui.
Ouais, il y a vraiment un lien entre nous et les artistes. Et c'est vraiment très très cool à vivre, de pouvoir rencontrer des gens, etc. Vraiment super.
Oui, j'imagine que de passer de « Ah, j'ai envoyé des mails et j'ai passé des appels » à « Maintenant ils existent en vrai, ils sont là »,
c'est exactement ça.
C'est marrant parce que quand vous avez dit une programmation assez libre, j'ai dit hâte d'avoir Michel Sardou du coup à Daft Punk. Non, j'imagine que c'est quand même aussi en accord avec des valeurs que vous portez et que vous mettez en avant au fil des années, au fil des programmations.
Oui, en fait c'est un message qui est assez clair quand même entre nous et l'équipe de programmation, on va dire, c'est qu'il y a des lignes à pas dépasser bien sûr, et des valeurs à respecter, et surtout des valeurs à transmettre dans la programmation. Donc en soi, eux ils sont libres à partir du moment où ils respectent en fait le projet et en fait son engagement de base.
Okay. Est-ce que vous avez un dernier truc à nous dire? Il nous reste une petite minute avant de clôturer. Est-ce que vous avez une dernière chose pour convaincre ces auditeurs de Radio Campus Paris de venir et de prendre leur place pour le festival?
Le Dofunk. Non, le Dofunk, c'est cool. Cette année, du coup, c'est une nouvelle édition. Ça se déplace au point éphémère.
Oui, c'est ça.
Avec un nouveau format, il y aura 7 heures de son, même plus en fait. 8 heures de son en continu de 19h à 3h. C'est un prix abordable, c'est caritatif surtout, oui. Et sur place du coup on aura l'Enfant Bleu qui aura un stand de sensibilisation, on aura aussi la graphiste qui a fait notre affiche,
oui.
Les Grabots, qui sera là pour pareil, promouvoir ses projets, tout ça. Donc,
trop bien.
Voilà, c'est très sympa.
Moi, si vous voulez faire la fête et en même temps faire une bonne cause, une bonne action, ça. Vous pouvez aller prendre vos places pour le Dofunk.
Exactement.
Eh ben, merci beaucoup Manon et Mathis, c'était un plaisir de vous recevoir. Pour le rappel, le Dofunk c'est du 31 janvier jusqu'au 1er février parce que ça finit à 3h du matin au point éphémère. Si vous voulez prendre ses places, le lien est dans votre Instagram de l'oreille de Dauphine. Et on vous dit à très vite au Dofunk. Merci beaucoup d'avoir écouté ce Zoom. On va passer une petite pause musicale avec une musique qui sera au Dofunk, un artiste qui sera culte funk avec couvre funk. C'est parti. We'll be right back. c'est la matinale de 19h. Il est 19h54 et 5 secondes, pile comme il faut. C'est l'heure de la chronique libre de Clotilde.
La matinale de 19h.
Dans la chronique du jour, nous allons parler du sursis pour les deux haltes de soins addiction présentes en France. Ces dispositifs, autrement appelés salles de consommation à moindre risque ou par ses opposants salles de shoot, sont présentes à Paris et à Strasbourg. Elles sont à destination des usagers de drogue. Initialement, leur fermeture était prévue au 1er janvier 2026 en raison de la fin de l'expérimentation débutée en 2016. Mais début novembre, l'Assemblée nationale vote une prolongation jusqu'à la fin 2027. Les objectifs de ces espaces sont multiples. Un accueil inconditionnel, anonyme et gratuit, mais aussi la distribution de matériel de consommation stérile pour les usagers, l'offre d'un espace sécurisé pour consommer, ainsi qu'un relais vers l'accompagnement social et sanitaire. Les enjeux sont pluriels, réduire la transmission des maladies, le nombre de seringues dans l'espace public, réduire le nombre de décès liés à la consommation et éviter les scènes ouvertes de consommation comme anciennement la colline du crack. Il semble important également de souligner qu'aucun produit n'est fourni aux personnes dans ces espaces. Les espaces visent également à accueillir les usagers sans jugement, en ne les voyant pas uniquement à travers le prisme de leur consommation et en visant à les déstigmatiser. À Paris, la salle est portée par l'association Gaïa et se situe dans le 10e arrondissement. La salle accueille en moyenne 350 personnes par jour et ils sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs, de médecins psychiatres, d'assistantes sociales. Concernant la décision de l'Assemblée nationale sur la prolongation de l'ouverture de ces salles, cela peut sembler être une bonne nouvelle, mais elle crée une incertitude et limite l'implantation de nouveaux espaces dédiés à ce public sur le territoire national. Plusieurs rapports comme celui de l'IGAS en 2024 ou de l'INSERM en 2021 montrent que ces salles ont un effet bénéfique tant au niveau économique, social que sanitaire. Et donc, on peut se questionner sur quels sont les freins réels à la pérennisation et à l'implantation de ces salles sur le territoire national. Pourquoi sommes-nous tant en décalage avec des pays voisins comme la Suisse ou les Pays-Bas, qui comptent des dizaines de salles sur leur territoire? Et ça questionne également dans un contexte politique lié à l'approche des élections municipales en mars 2026. Rachida Dati, en pleine campagne, instrumentalise sur ses réseaux sociaux les personnes précaires, dont les usagers de drogue. Elle évoque une situation d'abandon de ces personnes, mais qu'a-t-elle prévu pour répondre aux problématiques liées à l'usage de drogue et à la précarité quand on sait qu'elle milite contre les salles de consommation et véhicule des fake news, comme lorsqu'elle a porté une pétition en ligne pour dire non à 36 soi-disant nouvelles haltes de soins en France? Outre la question de la pérennisation ou non de ces haltes de soins addiction, cette question nous renvoie au besoin de la mise en place de politiques de réduction des risques. On ne peut pas penser la question de l'usage de drogue sans des services publics fonctionnels, un accès au logement décent et un système de santé ayant des moyens d'accompagner ces personnes.
Et c'était la chronique de Clotilde. C'est la fin de cette matinale, c'est déjà la fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous réécouter demain à 13h sur Radio Campus Paris en DAB+ et sur le 93.9 et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à nos invités Emmanuel Goffi, Manon Vazina, Viala et Mathis Guigal. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale, Nancy, Vladimir, Juliette, Clotilde. Merci David qui était ce soir à la réalisation. Merci à Jeanne et Aude, les bestes qui coordonnent la matinale et qui s'occupent des bénévoles. C'était Diane à l'animation et au Zoom. Restez bien sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Saliqua jusqu'à 21h et je vous dis à bientôt.